Bonjour et bienvenue dans l'Info C'est Clair. Les questions d'inflation et de pouvoir d'achat sont au cœur de ce nouveau quinquennat. Et pourtant, la remontée des taux d'intérêt signe la fin de l'argent magique, la fin du quoi qu'il en coûte. Le plus dur est devant nous, a reconnu Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. L'Info C'est Clair est intitulé « Pouvoir d'achat, dette, l'équation impossible ». Nos invités, Gaëlle Mac, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. Challenge qui titre cette semaine « Climat, nous allons changer de vie, carburant, alimentation, logement, etc. » Mathieu Plane, vous êtes économiste à l'OFCE. Et Étienne Lefebvre, rédacteur en chef des Échos, à la Une des Échos. Gaz russe, Poutine resserre les taux sur l'Europe. Merci de participer à cette émission en direct. Donc, on l'a dit, les chiffres viennent de tomber sur l'inflation, plus 4,8% sur un an. Mais dans les magasins, les produits frais augmentent de plus de 7%. On va voir le détail. Vous allez le voir, les prix des produits alimentaires ne cessent de monter. Sujet de Dorothée Lachaud, Catherine Rougerie et Florian Lemoyle.
Jamais, depuis des années, les prix ne s'étaient autant affolés en rayon. Avec la guerre en Ukraine, certains produits flambent. C'est le cas des pâtes premier prix, plus 43,73% en un an. Ou de la farine, plus 10,98%. Tous deux subissent l'explosion du cours des céréales. La viande, elle aussi, ne cesse d'augmenter, plus 14% sur les steaks hachés. Alors certains ont dû s'adapter.
Je regarde plus les prix, j'achète plutôt moins de viande.
Au lieu de manger de la viande, peut-être deux à trois fois par la semaine, bah, une fois c'est bien, c'est pas mal, quoi. Après on essaye de varier.
Forte hausse aussi au rayon huile, parfois presque vide, plus 17,97%. Du côté des légumes en conserve, le coût des emballages fait grimper les prix, plus 8,84%. Quant au café, les mauvaises récoltes dues à la météo se font sentir, plus 16,56%. Des hausses qui contraignent les Français à réduire leurs dépenses.
Moi, j'ai une petite retraite, je suis obligé de, ben, je suis obligé de faire attention.
Tu y montes, j'ai trois enfants, donc même les biscuits, je trouve que pour les classes moyennes, je trouve que c'est un peu affreux. On n'arrivait pas à suivre.
Alors, Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, que faut-il penser de ce chiffre? Plus 4,8%. En mars, c'était plus 4,5%. Donc, on voit l'inflation se nourrit, hein, augmente.
Elle continue à grimper. Oui, 4,8, vous l'avez dit dans le reportage, hein, ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas connu ça. Donc, c'est une hausse des prix de 4,8% en avril, là, non, c'est mars, pardon, 2022, par rapport au prix de mars 2021.
Bah, c'est le chiffre d'avril. C'est le chiffre d'avril. Hein.
Avril. Voilà, je m'y perds un peu. Voilà. mais c'est important de voir que la nouveauté, c'est qu'il y a un facteur énergétique qui est très fort, c'est à peu près la moitié.
Alors, on a le détail, regardez. Effectivement, tout ce qui est transport, ça a augmenté de 15,7%. On le voit là à l'écran. Ouais. Hein. Mmh. Énergie, plus 26,5%. Produits frais, plus 7,1%.
Voilà. Donc, on a des éléments qu'on appelle de l'inflation importée, hein, c'est-à-dire parce qu'on ne produit pas d'hydrocarbures, on importe un certain nombre de matières premières, ici, y compris agricoles, et donc on voit que les prix augmentent. Mais ce n'est pas la seule composante, et c'est un peu ça la nouveauté, c'est ce qu'on appelle le sous-jacent, c'est-à-dire une fois qu'on enlève ces produits les plus volatiles ou qu'on ne produit pas, on a une inflation qui augmente. C'est celle-là, en fait, qui inquiète hein, plutôt la Banque centrale aussi, c'est dire qu'en fait, d'un phénomène de prix importés, on aurait une inflation auto-entretenue qui serait liée à une transmission de cette inflation sur l'ensemble des prix, alors, y compris les services, par exemple. Bah, c'est-à-dire que ça augmente les coûts de production des entreprises, donc elle répercute dans les prix. Et puis après, vous avez l'effet de second tour qui est assez logique, c'est-à-dire que cette inflation vient ponctionner le pouvoir d'achat, notamment des salariés. Et donc, il peut y avoir des augmentations de salaire pour faire face à cette inflation, ce qui est assez logique. Comme vous voyez, quand le SMIC augmente, c'est pour garantir ce pouvoir d'achat. Mais ça augmente. C'est normal pour que les salariés essayent de maintenir leur pouvoir d'achat, mais pour les entreprises, c'est des coûts de production supplémentaires, des salaires versés supplémentaires, et donc ça peut se transmettre à des prix.
Les entreprises sont obligées de relever les prix.
Ils n'ont rien à voir avec l'énergie initialement. Et donc c'est cet effet endogène qui est compliqué, qu'on maîtrise assez mal, et c'est cette fameuse spirale inflationniste que craignent notamment les banquiers centraux, les États, etc., parce que c'est compliqué à gérer, ça nécessite des politiques plus restrictives pour finalement les calmer. Dernier point, c'est vrai, mais peut-être qu'on en parlera, c'est que finalement, cette inflation, elle n'est pas propre à la France. Hein. C'est un choc inflationniste partout dans le monde.
Chez nos voisins, enfin, la zone euro, c'est 7,5% d'inflation. Voilà.
Et on l'a dit, effectivement, la France s'en sort plutôt mieux que ses voisins. Quand on regarde le bouclier tarifaire plus ce qui a été fait sur l'essence, en gros, il y a 2 points d'inflation. Après, il y a le mix énergétique, mais c'est quand même beaucoup, hein. Ça veut dire que, en réalité, on serait dans la moyenne de la zone euro si on n'avait pas pris les mesures spécifiques de blocage des prix, notamment sur l'énergie.
Ça veut dire que vous êtes en train de dire, en creux, que nos voisins n'ont pas pris ces mesures.
Ils n'ont pas pris les mêmes mesures.
Et du coup, ils ont une inflation de 7,5. C'est ce qu'on aurait sans le bouclier tarifaire.
Plus le nucléaire qui est effectivement notre
avantage. Mesures, hein. Ils ont pris des mesures, mais peut-être pas aussi fortes. Et puis, c'est vrai qu'on a, on a quand même une électricité nucléaire à 70% qui est quand même, qui calme énormément. Parce que bon, je veux dire, on est moins dépendant des hydrocarbures russes, le gaz et le pétrole que d'autres pays. Hein.
Gaël Mac, je voudrais revenir sur la une de cet excellent magazine Challenge. Climat, nous allons changer de vie, carburant, alimentation, logement. Alimentation. Je prends un extrait, c'est vrai que la moutarde augmente. Alors on se dit, tiens, après l'huile de tournesol, le prix de la moutarde augmente. Sauf que si on regarde pourquoi la moutarde augmente, eh bien c'est à cause, parce que le premier producteur de moutarde, c'est le Canada. Et la récolte de graines de Canada ont été perturbées par le dôme de chaleur l'été dernier. Donc en fait, il n'y a pas que l'Ukraine, ce que je veux dire par là.
Ah non, bien sûr que non.
La hausse des prix.
Par exemple, un deuxième très gros producteur de blé dans le monde, c'est l'Inde. L'Inde connaît une sécheresse absolument exceptionnelle, là, en ce moment, qui est en train de créer des incendies et vraiment des canicules partout. Donc, probablement que sa production va en être affectée. La France est un gros producteur de blé et il y a 15 départements qui sont en ce moment en alerte sécheresse, déjà. Globalement, je pense que pour les produits alimentaires, il va falloir s'habituer à ce que les événements météo extrêmes soient beaucoup plus fréquents, ne soient plus exceptionnels. Et donc, il faut voir que sur l'espace de 30-40 ans, les rendements agricoles ont énormément augmenté, bien plus que la population mondiale, et donc ont permis à la population mondiale d'augmenter sans craindre de rupture alimentaire ou de famine, etc. Et là, entre les tensions géopolitiques qui font que certains pays très producteurs ne peuvent plus envoyer leurs récoltes, etc., et les événements météo, le dérèglement climatique qui va produire des effets sur les rendements des récoltes, on peut considérer que dans l'avenir, il y aura plus de tensions sur le marché agricole et plus de risques que certaines régions vraiment retrouvent des famines ou des ruptures alimentaires.
Et Étienne Lefebvre, dernier point qui pourrait aussi expliquer la hausse des prix, le port de Shanghai qui est à l'arrêt depuis plus d'un mois. On sait que les prix ont beaucoup baissé depuis 30-40 ans, évidemment, parce que on avait du Made in China qui arrivait à des lecteurs DVD à 20 euros grâce à la fabrication chinoise. Oui. Parce que là aussi, on arrive au bout.
Non, on a une conjonction de facteurs. Le problème du transport maritime mondial avait été pointé déjà il y a 6 mois, 1 an. La désorganisation, tout le monde avait dit, c'est un phénomène majeur et ça va mettre énormément de temps à se résorber. Bon, bah là, malheureusement, avec le Covid en Chine et l'échec pour l'instant de la stratégie zéro Covid, ça s'aggrave à nouveau. Mais pour revenir à la normale sur le transport mondial, il faut 1 an, 2 ans.
Ça n'a rien à voir avec l'Ukraine.
Il y a des goulots d'étranglement et ça n'a rien à voir avec l'Ukraine. Mais ça rajoute au problème. Et il y a en effet les problèmes spécifiques climatiques. Tout ça fait qu'à l'arrivée, on a des craintes sur l'inflation beaucoup plus durable. Hein. C'est la Banque de France qui anticipe maintenant un recul de l'inflation
plutôt en
2023, alors que jusqu'à présent, elle espérait que ça commencerait à diminuer. La bosse d'inflation, on ne parle plus de bosse d'ailleurs maintenant, diminuerait dès 2022. Maintenant, on évoque 2023 et un vrai retour à la normale 2024. Mais en fait, personne n'en sait rien.
Donc, les prix augmentent et on voit qu'ils n'ont pas fini d'augmenter pour les différentes raisons que vous venez d'expliquer. Le dérèglement du climat, la mondialisation qui fonctionne moins bien, le Made in China qui arrive moins bien dans nos magasins. Le problème, c'est qu'en face, les salaires n'augmentent pas. Et résultat, on a de plus en plus de travailleurs qui travaillent, qui ont un emploi et qui ne s'en sortent pas et qui, pour payer leurs factures, sont contraints d'aller au Mont-de-Piété. Regardez ce reportage édifiant à Toulouse d'Isabelle de Lyon et de David Bresse.
Échanger ses bijoux contre de l'argent, le dernier recours pour cette mère de famille.
Mais je dépose uniquement pour payer des factures et de quoi me nourrir parce que c'est tellement compliqué. Là, c'est une facture de 323 euros que je dois payer. J'ai 2 enfants en charge, c'est compliqué, tout est cher, on ne s'en sort pas.
Femme de ménage avec 1300 euros par mois, c'est sa solution de financement. En échange de 30 grammes d'or, elle reçoit 670 euros qu'elle aura 6 mois pour rembourser.
On n'a que cette solution, hein. On n'a pas le choix. Et moi, personnellement, avec ma banque, c'est très compliqué. Je n'arrive pas à avoir de crédit parce que je ne suis pas en CDI.
Au Crédit Municipal de Toulouse, tous les jours, un flux ininterrompu de publics en quête d'argent, impacté notamment par la hausse du prix de l'essence. Comme Ali Bashkat, ce conducteur de VTC n'a même plus de quoi faire un plein après une période d'arrêt.
Ah oui, là, ça va bien m'aider parce que je ne trouve pas de solution pour reprendre le boulot. Et l'essence, comme vous voulez constater, comme ça a augmenté, ça coûte très cher, là.
90% des emprunteurs remboursent leurs dettes, sinon les objets déposés sont vendus aux enchères.
Mathieu Plane, c'est terrible parce qu'on a des gens qui ont un emploi. Enfin, quand on a un emploi, on a toujours appris, bah, on s'en sort. Là, on a des gens qui ont un emploi et qui n'arrivent pas à terminer le mois, à vivre dignement, à vivre de leur travail.
Alors, le travail précaire existait avant la crise. Hein. On avait 7% des travailleurs qui étaient sous le seuil de pauvreté, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Le problème, c'est que cette crise, elle va renforcer les inégalités et la pauvreté. À partir du moment où vous avez un choc sur les prix, vous payez plus cher votre carburant, vous payez plus cher votre énergie, votre chauffage, votre transport, ça vient ponctionner forcément votre pouvoir d'achat. Comme les salaires n'augmentent pas aussi vite que les prix, forcément, ça va augmenter le pouvoir d'achat. Et autre point, c'est que la dépendance énergétique peut être très différente selon la situation sociale, selon les niveaux de vie, et le poids de l'énergie est d'autant plus fort que vous êtes dans les bas revenus.
Mais pourquoi un cadre sup est moins touché qu'une femme de ménage
Mais parce qu'en réalité, le poids de l'énergie, c'est à peu près 9% dans notre consommation, mais il va être beaucoup plus élevé quand vous êtes plutôt modeste, parce que c'est quelque part une dépense un peu incompressible, que quand vous êtes un ménage qui est plus riche. Donc le ménage pauvre va devoir rogner sur d'autres dépenses. Et c'est là le problème. C'est-à-dire que, effectivement, cette crise, elle est majeure, elle est importante, c'est un choc économique et macroéconomique, mais c'est aussi dans le détail, inégalitaire, et les situations sociales sont très différentes. Selon votre niveau de vie, selon votre lieu géographique de vie, par exemple, si vous êtes cadre urbain pour des transports en commun, vous serez beaucoup, et vous, si vous vivez en appartement, dans un logement collectif, vous serez moins touché que si vous êtes dans un logement individuel, périurbain ou zone rurale, où vous avez une facture de chauffage plus élevée, vous devez prendre votre voiture tous les jours pour aller travailler. Vous voyez, le choc va être très différent selon les situations, et il peut être très important. Et donc le reste à vivre va être très vite compressé, voire pour certains, vous ne bouclez pas les fins de mois.
Il faut bien comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au départ, c'est un choc d'inflation importé. Oui. Donc il y a plusieurs dizaines de milliards d'euros qui sont prélevés sur l'économie française et qui partent ailleurs. Et
pour payer ce pétrole, par exemple.
Ce pétrole, ces matières premières, etc. Et donc il y a une perte de richesse pour l'économie française. Après, qui la paye, cette perte? Alors les entreprises sont affectées, comme les ménages. Soit elles sont capables d'augmenter leurs prix. C'est une bonne chose parce qu'elles peuvent continuer de payer des salaires plus élevés, d'investir, d'embaucher. Soit elles n'en sont pas capables, et dans ce cas-là, c'est une bonne chose pour le pouvoir d'achat des Français, mais c'est une mauvaise chose.
Il y a un mistigri, alors ce que vous voulez dire,
mais de toute façon,
soit c'est l'entreprise, soit le consommateur.
Voilà, soit c'est l'État. Et alors l'État en prend une partie, on l'a évoqué, une partie importante, mais il ne peut pas tout prendre, il ne peut pas tout geler, il y a un moment, ce n'est pas possible. L'économie ne peut pas être... Mais à l'arrivée, ça fait des dégâts, et donc c'est inégalitaire, ce phénomène-là est inégalitaire. À partir du moment où il est violent, un peu d'inflation, ça va. Beaucoup d'inflation, ça fait des chocs inégalitaires, puisque évidemment, tout le monde, tous les acteurs économiques ne sont pas égaux face à ces variations brutales. Et ça fait aussi des chocs pour les entreprises, puisqu'il y en a qui sont capables, qui ont les reins solides de faire face à ça, et d'autres qui risquent de mettre la clé sous la porte, parce qu'elles ne sont pas capables de faire face à des coûts de production qui augmentent de 10, 20, 30, 40% d'un coup.
Gaël Mac, l'inflation mondiale relance les revendications salariales. C'est la une ce matin du Figaro. Évidemment que ces prix qui augmentent et en face des salaires ou les pensions qui restent les mêmes, ça nourrit un ressentiment qui s'exprime d'ailleurs peut-être dans les urnes. Pourquoi autrefois, dans les années 70, les salaires, si je me trompe, étaient indexés? Et c'est encore le cas en Belgique, je crois.
C'est encore le cas en Espagne, en Belgique. Alors en France, c'est vrai que dans les années 70, il y avait eu des variations de prix du pétrole beaucoup plus fortes. Hein. En 74, après la guerre du Kippour, en l'espace de 4 mois, ça avait quadruplé le prix du pétrole. En 79, ça avait de nouveau doublé après la révolution iranienne. Mais à l'époque, les salaires étaient indexé sur l'inflation. Ça a été le cas en France jusqu'en 1983.
L'inflation augmente de 4,8. Votre salaire augmente de 4,8.
Voilà, c'était automatique. Et donc, effectivement, c'est un système qui existe encore en Belgique et en Espagne, qui n'existe plus en France. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui propose de le remettre en place. Donc maintenant, c'est plutôt une histoire de négociation. Et d'ailleurs, dans notre inflation, un peu plus faible que dans d'autres pays, la modération salariale joue aussi hein, son rôle. Parce qu'en Allemagne, par exemple, il y a eu des augmentations de salaire bien plus élevées. Et pour le moment, en France, malgré les pénuries d'emplois dans certains secteurs, malgré cette inflation qui est forte, bon, qui est encore récente, pour l'instant, il n'y a pas eu, en dehors un peu de l'hôtellerie-restauration, mais globalement, il n'y a pas eu de poussée des salaires très forte. Mais c'est clair que les revendications arrivent. On est en pleine période hein, de négociation et ça va être une revendication forte. En partie en France, c'est l'État qui a joué, comme d'habitude, le rôle de compensation. Il jouait le rôle des entreprises, en gros, en essayant d'aider le pouvoir d'achat des ménages sans qu'ils aient besoin d'avoir des salaires plus élevés. Mais comme l'a dit Mathieu, etc., il y a des travailleurs pauvres maintenant. Comme le montrait votre reportage, il y en a de plus en plus. Donc, les salaires vont être la question critique de la rentrée sociale.
Alors, oui, Étienne Lefebvre, vous vouliez ajouter...
Oui, juste l'indexation des salaires, ouais. Ça pose quand même deux énormes problèmes. C'est que ça, si on fait ça, on entretient le phénomène
Parce que si le patron, le restaurateur a plus de salaire, il va augmenter le prix du menu.
On est typiquement dans la boucle prix-salaire qui est redoutable.
La spirale.
Et puis deuxièmement, ce que je disais, les entreprises ne sont pas du tout dans les mêmes situations. Certaines vont pouvoir augmenter les salaires sans problème, et d'autres, si elles doivent augmenter les salaires brutalement... sont obligés de mettre la clé sous la porte.
Juste pour ajouter quelque chose là-dessus, c'est que effectivement, par contre, le SMIC est indexé.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a maintenu juste le SMIC indexé. Donc, d'ailleurs, il a augmenté de près de 6% depuis octobre. Pas parce que c'est pas un coup de pouce, hein, c'est pour préserver le pouvoir d'achat des personnes SMIC. Mais ça pose toute la question de la hiérarchie des salaires et ceux qui sont juste au-dessus du SMIC. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas revalorisés de la même façon, ils vont être rattrapés par le SMIC. Donc, vous avez un risque de tassement des salaires vers le bas.
C'est une smicardisation des travailleurs.
Vous avez une forme de smicardisation.
Tout le monde se retrouve au minimum.
Imaginez que vous avez 5% d'inflation chaque année. Et au bout de deux ans, si vous étiez 10% au-dessus du SMIC et si vous n'êtes pas revalorisé, vous êtes rattrapé.
C'est pas très valorisant d'être au SMIC. On est au minimum.
Donc ça pose la question de la diffusion de la hausse du SMIC aux autres salaires. Et puis, autre problème, qui est un problème qui va être qui va encaisser l'inflation au sein même des ménages. Par exemple, les prestations, les retraites vont être revalorisées cet été, comme Emmanuel Macron l'a promis. Mais ça pose cette question, c'est-à-dire que si vous augmentez les retraites pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités,
des salariés.
C'est logique. Et si les salaires augmentent moins vite que les retraites, ça va poser quand même une question un peu générationnelle, surtout si dans le même temps il y a une réforme des retraites où on vous demande de travailler plus. C'est-à-dire que si les actifs doivent travailler plus longtemps, mais que leur salaire augmente moins vite que les retraités, est-ce qu'ils vont accepter une telle situation ?
Vous voulez dire que les salariés, on leur impose la modération salariale et de travailler plus longtemps pour financer les retraites ?
Je pense que ça pose
ça fait le double
effort dans ce cas-là.
Et on sait qu'il va y avoir une augmentation des salaires dans la fonction publique, puisqu'ils ont déjà annoncé qu'il y allait avoir un dégel du point d'indice, qui est en gros le système des fonctionnaires pour augmenter les salaires, qui a été bloqué depuis 2017, je crois. Donc ça, bon, mais on ne sait pas de quel montant est-ce que ça va compenser l'inflation. Mais donc, il va y avoir des catégories de salariés, il va y avoir les retraités, il va y avoir certaines personnes dont on sait que leur salaire va augmenter. Donc les autres... je pense, vont être quand même très...
Et moi.
Voilà.
En attendant, vous l'avez dit, Gaël Mac, l'État, du coup, pallie et compense avec ses chèques inflation. Et ça va continuer. Hein. Emmanuel Macron a dit qu'après les législatives, il y aurait une nouvelle salve de mesures de chèques en faveur du pouvoir d'achat. On commence à avoir des détails. Sujet de Christelle Méral, Thibaut Petit et Alexandre Dupont.
Derrière les murs de l'Élysée, Emmanuel Macron a en tête les législatives et veut accélérer sur le pouvoir d'achat. Plusieurs mesures seraient présentées en Conseil des ministres après le 19 juin.
Ce texte est déjà travaillé, préparé, et qu'il sera présenté dans la foulée des élections législatives pour pouvoir être adopté très rapidement.
S'il remporte la majorité aux législatives, le président veut répondre à la flambée des prix de l'énergie, de l'alimentation et à la baisse du pouvoir d'achat des retraités. Concrètement, le bouclier tarifaire serait maintenu jusqu'en décembre, c'est-à-dire le gel du prix du gaz et la hausse de 4% maximum de l'électricité. Pour le carburant, poursuite de la remise de 18 centimes par litre, mais elle pourrait être remplacée par un dispositif réservé aux gros rouleurs, ceux qui utilisent beaucoup leur voiture pour travailler. Autre mesure, l'indexation des retraites sur l'inflation dès le 1er juillet, pas de quoi convaincre le Rassemblement national.
Ils leur ont cassé la jambe pendant 5 ans et puis là ils viennent leur offrir une béquille. Emmanuel Macron propose de réindexer les pensions de retraite sur l'inflation après les avoir lui-même désindexées.
Le chef de l'État prévoit aussi un chèque alimentation de 50 à 60 euros par mois pour les plus modestes, environ 8 millions de ménages. Également au programme, cet été, la revalorisation des minima sociaux et le dégel du point d'indice des fonctionnaires, des mesurettes selon la France insoumise.
Bon alors Étienne Lefebvre, évidemment que c'est pas assez, mais on voit que puisque mon patron ne peut pas m'augmenter, heureusement qu'il y a l'État qui lui peut me faire quelques chèques.
Oui, alors il y a deux choses. Sur les prestations sociales, c'est vrai qu'on n'était plus habitué à de tels chocs d'inflation. Donc on attend d'habitude le 1er janvier, on regarde l'inflation constatée dans l'année, et puis on augmente de 1%, 1,5%, c'était plutôt même 0,5% pendant très longtemps. Donc le décalage dans le temps ne posait pas de problème. Là, quand on a 4, 5, 6% d'inflation, alors le SMIC, c'est le seul instrument pour lequel on a une hausse anticipée, mais pour les retraites, le RSA, la prime d'activité, les allocations familiales également, tout ça aurait dû attendre le 1er janvier. Donc là, ça va être augmenté en anticipé dès le 1er juillet. Quelque part, c'est juste une anticipation, mais qui est nécessaire parce que sinon, vous avez ces pertes de pouvoir d'achat sur 6 mois, 9 mois, qui sont très, très difficiles à assumer, en particulier pour les foyers modestes. Et puis après, vous avez toutes ces prestations. Et là, le gouvernement est devant une contradiction parce qu'il n'arrête pas de dire on va aller vers des dispositifs plus ciblés sur les gens qui en ont le plus besoin. Mais en réalité, son chèque essence, les 18 centimes, il dit que ça va être prolongé au-delà de la fin juillet. Parce que c'est difficile d'arrêter ça fin juillet, alors que les gens vont beaucoup rouler au mois d'août, notamment les vacanciers. Donc on se dirige vers une prolongation de ce dispositif. Et puis pour les gros rouleurs, il y aura un autre dispositif à annoncer, mais sans doute encore plus tard, parce que c'est très complexe à mettre en œuvre. Et puis ça va faire des déçus, parce que vous avez des effets de seuil à partir du moment où on va dire...
Il y a gros rouleurs, il y a presque gros rouleurs.
Oui, et puis ça prendra compte du niveau de vie. Donc si vous gagnez 1500 euros, plus de 1500 euros, plus de 2000 euros, vous n'y avez plus droit, évidemment. Ça va faire des déçus. Pareil pour le chèque alimentation. Dans le discours de Matignon mercredi, il y a cette idée qu'il va y avoir un chèque assez rapidement et puis un dispositif plus élaboré par la suite. Donc parce qu'au départ, on partait sur quelque chose qui avait vocation aussi à favoriser le bio, les circuits courts, pour permettre à des gens plus modestes de manger sainement. Et là, on va, dans un premier temps, faire juste un chèque, un peu comme l'allocation de rentrée scolaire, et qui sera même sans doute pas fléché sur les dépenses alimentaires. Ça sera très certainement juste un chèque versé, alors avec la question de quel seuil de revenu et quel montant par mois. Mais c'est cette nécessité de cibler davantage, politiquement, c'est quand même assez explosif.
Gaël Mac, c'est un héritage du quoi qu'il en coûte. Maintenant, c'est vrai que quand on a un problème de portefeuille, on ne va plus voir son patron, parce qu'on sait qu'il va vous dire non. On se tourne vers l'État et on sait qu'il va vous dire oui d'ailleurs.
Oui, le quoi qu'il en coûte. Alors là, on n'est pas. Bruno Le Maire n'arrête pas de nous dire c'est terminé.
Il a dit nous sommes face à des difficultés économiques considérables. Voilà. Le plus dur
est devant nous.
Qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Il a voulu dire que cet argent magique là, qui nous a, par centaines de milliards, qui nous a aidé à traverser le confinement, en fait.
Moi, je ne pense pas. En tout cas, pour l'année 2022, non. L'ensemble des mesures là qui sont en cours actuellement, comme le bouclier tarifaire sur les gels des prix de l'électricité et du gaz, ou le chèque inflation, etc., ça a déjà coûté très cher. Et si on compte ce qui va arriver en juillet, donc cette loi pouvoir d'achat que nous promet Macron, on va terminer sur plus de 30 milliards quand même. 30 milliards dans l'année 2022 d'aide contre l'inflation. Bon, le Covid, selon Olivier Dussopt, ça avait coûté 140 milliards sur... Enfin, je ne parle pas des prêts, etc. Je parle de ce qui a été décaissé réellement par l'État sur 3 ans, 2020, 2021, 2022. Bon, 30 milliards sur un an, c'est déjà une somme quand même coquette. Et on ne sait même pas s'il va s'en tirer comme ça ou si ça ne va pas être plus élevé. Parce que en partie, c'est incontrôlable. Quand on fait un bouclier tarifaire et qu'on gèle les prix du gaz et de l'électricité, si les prix du gaz et de l'électricité s'envolent encore fortement...
Or, quand on lit Challenge, voilà. On nous dit qu'avec les problèmes du climat, ils vont continuer de grimper.
Bah, oui, et bah, du coup, je veux dire, la compensation est plus forte qu'on doit faire et donc le prix est en partie
c'est
incontrôlable.
C'est très difficile d'en sortir.
Voilà. Mathieu Plane.
Oui, alors, sur l'énergie, c'est très compliqué parce qu'il y a la question de l'embargo sur le pétrole et le gaz russe. On n'est pas dedans encore. Hein. Voilà la discussion européenne pour aller vers un embargo sur le pétrole d'ici à la fin de l'année.
Donc, Bank of America dit que ça propulserait le baril à $200.
Alors voilà, on est à 100. Il y a des prévisions. On ne sait pas aujourd'hui si ça, si ça intègre dans les prix justement le baril de pétrole aujourd'hui qui est autour de $110. Déjà, plus ou moins un embargo. Mais oui, c'est un des plus gros producteurs au monde de pétrole et de gaz. Donc si vous le sortez de l'échiquier mondial politique... Forcément, ça va créer
ça
des
fait
tensions.
Un litre d'essence à 2,50.
Ce qui était dit avant, c'est qu'effectivement, au départ, cette inflation était vue comme un pic transitoire avec des goulots d'étranglement et qu'on reviendrait à la normale. Là, le problème, c'est qu'on ne reviendra pas à la normale, certainement. Et donc, il va falloir vivre de façon durable avec un prix de l'énergie cher, avec des problèmes d'approvisionnement qui seront peut-être plus durables aussi. On l'a vu avec la stratégie zéro Covid, les problèmes du transport, de la relocalisation. Et donc, cette inflation peut être assez permanente. Donc ça oblige le gouvernement aussi à avoir une réponse plus structurelle. C'est-à-dire que pour le moment, ce que dit Gaël est juste, c'est-à-dire qu'on a eu des réponses d'urgence un peu comme avec le Covid, y compris sur l'énergie, avec des boucliers tarifaires qui arrosent un peu tout le monde quelque part, mais on voit que dans le temps, et c'est là où le plus dur est devant nous, c'est que quand il va falloir flécher, cibler, limiter la dépense et faire des ajustements budgétaires dans un monde où la croissance va être percutée, où les taux d'intérêt remontent, et... potentiellement, vous avez aussi des questions budgétaires qui peuvent revenir, y compris avec nos partenaires européens. Donc, c'est là où je pense que Bruno Le Maire dit le plus dur est devant nous, c'est qu'il y a beaucoup de grains à moudre et qu'on a un choc macroéconomique de grande ampleur chez nous, mais aussi chez nos principaux partenaires.
C'est-à-dire que les prix vont rester durablement élevés et que l'État ne pourra plus indéfiniment continuer à faire des chèques en creusant la dette. Quoi,
c'est-à-dire que pour le moment, voilà, ce qu'Étienne a dit était juste, c'est-à-dire que qui encaisse le choc inflationniste ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est les ménages ? Est-ce que c'est les entreprises ? L'État a pris pas mal, 30 milliards avec son plan de résilience. Il rajoute à peu près, à mon avis, un peu plus de 10 avec ce qui va être proposé dans la loi de pouvoir d'achat. Donc, ouais, on est déjà à 40. Mais ça, c'est valable pour 2022. Est-ce que le chèque alimentaire, il va le faire tous les 6 mois ? D'accord. Est-ce qu'on va baisser les 15 ou 18 centimes de façon durable ? Est-ce que ça allait peut-être jusqu'à la fin de l'année ? Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Et là, quand on va changer et quand on va sortir, là, les vrais prix vont être révélés.
D'accord. Et on est quand même à 110% du PIB de dette. Hein. Je pense qu'on ne va pas pouvoir éternellement quand même creuser...
Sinon, nos voisins européens pourraient commencer à dire, comme ils l'ont fait pour les Grecs, dites donc, il faudrait comment... C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on fait la réforme des retraites, pour leur dire, non, mais vous voyez, on est sérieux.
Alors oui et non, parce qu'eux aussi sont confrontés à cette inflation forte et vont devoir prendre des mesures. Et je veux dire, c'est un peu comme le Covid, on est un peu tous dans cette même galère. En revanche, ce qui se passe, c'est que quand même les taux vont augmenter. Hein. Dès juillet, la BCE a décidé qu'elle
allait... Donc la dette qui coûtait rien, elle va commencer...
Donc là, on était dans l'anesthésie totale. Hein. Ça nous coûtait... Plus on était endetté, moins ça nous coûtait. Pratiquement, c'était quelque chose de un peu étrange. Mais cette situation va cesser. Si on a 3 relèvements de taux dans l'année, ce qui commence à être un peu les prévisions, 3-4 encore en 2023, bon, bah, ça va finir par nous coûter cher, cette dette.
Et j'ai une autre mauvaise nouvelle. Ces chèques qu'on fait aux Français, hein, ce déficit qu'on alimente pour renflouer un petit peu notre portefeuille, ben, avec cet argent, on achète beaucoup de produits importés. Et résultat, comme on importe beaucoup plus qu'on exporte, on a une balance commerciale qui affiche un déficit record de 100 milliards sur un an. Pour le premier trimestre, notre balance commerciale, enfin le déficit a doublé sur un an, est passé de 15 à 30. Des explications de Gaspard de Florival avec Michel Anglade.
Une croissance qui s'essouffle et des chiffres du commerce extérieur de plus en plus mauvais. D'un côté, le coût de nos importations flambe avec l'envolée des prix du gaz, de l'électricité. De l'autre, nos exportations, elles, stagnent. Sur 12 mois, le trou du commerce extérieur atteint 100 milliards d'euros, un record. Près de Lille, ce sous-traitant de pièces métalliques pour l'industrie exporte la majeure partie de sa marchandise. Mais les échanges ont ralenti ces derniers mois.
Alors ça, c'est des pièces donc, qui sont pour des marchés à l'étranger, dont on a un volume inférieur depuis un moment. De par un certain nombre de crises, donc c'était une partie la Russie, mais avant ça, beaucoup le Covid.
Au total, 25% d'exportation en moins selon le patron. L'entreprise fournit notamment des sociétés qui travaillent en Russie et craint de lourdes pertes financières.
D'accord.
un de nos principaux clients qui va perdre, lui, 6 millions d'euros l'année prochaine, en 2023.
Donc ça va forcément vous toucher ?
Forcément, ça va nous impacter, à moindre mesure forcément, mais on sera impacté par la perte de ce marché, oui.
Le déficit commercial se creuse aussi également dans l'industrie chimique, le secteur des produits agricoles ou encore celui de l'énergie. Notre déficit commercial de 100 milliards d'euros est 4 fois plus important que celui de l'Espagne. 25 milliards sur un an, 5 milliards pour l'Italie.
Donc Étienne Lefebvre, si on comprend bien, on importe beaucoup, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à exporter.
Oui, alors il y a une part de conjoncturelle, hein, avec des organisations de certains marchés, des chaînes de valeur, le Covid. Donc ça peut se résorber globalement, mondialement. Et puis il y a, quand on se compare avec les autres, c'est là où c'est un peu plus inquiétant. Si la France perd des parts de marché, et c'est le cas par rapport à d'autres États. Mais l'Allemagne perd aussi dans son commerce extérieur en ce moment à cause du contexte. Donc ça, c'est problématique et ça veut dire qu'il va falloir continuer d'avoir une action assez soutenue, filière par filière, pour essayer d'améliorer ce solde. Après, il y a quand même des bonnes nouvelles. Dans le tableau, il y a la balance des services qui, elle, progresse largement. Et c'est important parce que ça fait rentrer
C'est-à-dire que Veolia ou Sodexo, quand ils organisent les cantines en Inde ou aux États-Unis, Sodexo, ils gagnent de l'argent aux États-Unis qui nous ramène en France, c'est
oui,
ça?
Oui, et ça veut dire qu'on a aussi un retour du tourisme en France et qui fait qu'il y a beaucoup d'argent et de devises qui sont dépensées en France. Et ça, c'est dans la balance des services. Il y a aussi le commerce.
Il n'y a pas que l'échange de produits, il y a aussi
Les prix du transport ont explosé, mais ça a augmenté beaucoup les revenus de ces entreprises-là. Et ça, c'est quelque chose qui bénéficie à la France, comme on parlait tout à l'heure des rentes pétrolières pour certains États.
Ah.
Ça leur bénéficie. Donc ce facteur-là est important. La balance des services a été excédentaire de 26 milliards au premier trimestre. Donc ça limite notre dépendance vis-à-vis de l'étranger. Donc il y a aussi...
Ça veut dire que la France n'est pas un pays industriel, c'est un pays de services. Elle ne sait pas exporter ses voitures, mais elle sait par exemple gérer l'eau dans les municipalités chinoises ou indiennes.
En tout cas, elle voudrait faire les deux. Et pendant le Covid, la balance des services s'était beaucoup dégradée, donc ça c'était inquiétant.
D'accord.
Parce que le tourisme s'était effondré, le transport s'était effondré. Là, c'est reparti. Le problème, c'est qu'il faut que sur l'industrie, les résultats, c'est sur 5, 10, 20 ans. Et ça sera très long. Il y a juste une autre plutôt bonne nouvelle sur l'inflation qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que ça va aussi augmenter les recettes fiscales et les recettes sociales. Vous avez de la TVA, si les prix augmentent, les rentrées de TVA vont augmenter, même si la consommation n'est pas très bonne. Les cotisations sociales, si les salaires augmentent, vont beaucoup augmenter également. En plus, l'emploi résiste plutôt bien pour l'instant en France. Donc vous avez l'État, il va être évidemment confronté à une équation budgétaire très compliquée. Mais il va quand même avoir il n'en parle pas beaucoup, parce que évidemment, il ne faut pas trop en parler dans ces cas-là, mais il va quand même y avoir aussi des énormes dépenses d'un côté, mais des ressources plus fortes de l'autre.
Ah, mais c'est bien, merci de nous avoir remonté le moral.
Oui, parce qu'avec des bonnes nouvelles.
Voilà, donc on comprend. sur le déficit commercial, déficit commercial, Mathieu Plane, ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait que nous, on achète beaucoup de produits étrangers, mais les étrangers, ils ne sont pas fanas de produits que nous fabriquons.
Le constat est juste, hein, mais c'est vrai que les impacts économiques sont un peu différents quand vous accumulez des excédents dans les services, notamment qui lient aux services de transport et le fret maritime, ou quand vous subissez en fait des déficits commerciaux liés notamment à la mauvaise performance économique de secteurs industriels comme l'automobile, par exemple. On avait l'aéronautique qui a pris un choc aussi important.
Pourquoi c'est différent? Parce que dans les services, ça fait travailler des travailleurs indiens.
Exactement. En fait, c'est quelle est la diffusion sur l'emploi et les revenus en fait des ménages en France. C'est vrai que par exemple, on a une balance des revenus qui est importante parce qu'il y a beaucoup d'entrées de bénéfices liés à nos multinationales qui sont des champions en fait. On est très compétitif à l'international avec ces champions. Sauf qu'effectivement,
Veolia qui est le numéro un mondial de l'eau,
qui sont implantées dans le monde, qui génèrent des bénéfices, qui ont des activités fortes et c'est très bien. Effectivement, ça va générer des revenus pour les détenteurs des capitaux en France. Mais c'est effectivement, ce n'est pas les travailleurs en France qui vont profiter de ces revenus.
Ça fait une belle jambe aux chômeurs de Hénin-Beaumont.
Donc, ce n'est pas pareil quand vous exportez une voiture que vous avez fabriquée en France en termes d'impact économique et de revenus que quand c'est des dividendes versés de vos multinationales à l'étranger. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça veut dire que ce n'est pas les mêmes effets. Voilà, donc ça, c'est un point important. Et puis après, il y a l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a la question de la performance économique et de l'industrie. Premièrement, mais il y a aussi la question stratégique. On l'a vu, c'est-à-dire que sur certains produits, on l'a vu dans l'industrie, par exemple, pharmaceutique, sur certains principes actifs, sur les respirateurs, etc., la question se pose de plus en plus de la dépendance sur certains composants industriels. Et c'est vrai que le plan investissement 2030 est intéressant, c'est-à-dire quelles sont les filiales qui peuvent être stratégiques pour l'avenir, sur lesquelles on doit mettre l'accent, sur de l'énergie, sur les batteries, etc., sur lesquelles on doit être assez performant, et pas qu'au niveau français, au niveau européen, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, il y a quand même une réorganisation des chaînes de production mondiale, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, et il y a quand même un enjeu de forme de développement, de relocalisation de certaines activités.
Mais il faut être sur des activités de pointe, hein, ce qu'on dit, on ne va pas réimporter la fabrication de t-shirts.
Oui.
Est-ce qu'on en a les moyens ?
Pas totalement juste, hein, parce qu'un secteur qui se porte plutôt pas mal en France, c'est tout ce qui va être, mais ce n'est pas effectivement low cost, hein, mais ça va être toute la maroquinerie, par exemple, le textile, mais plutôt haut de gamme. Et aujourd'hui, on voit des excédents. Par contre, quand vous avez dit très justement, le problème, c'est qu'on importe beaucoup. La consommation qui a plutôt pas mal tenu pendant la crise Covid, c'est sur les biens manufacturés, les équipements du foyer.
Ah ouais.
Donc, c'est quoi ? C'est le canapé, vous renouvelez votre ordinateur, vous allez acheter une table. 80-90% sont des importations. Par contre, quand vous consommez des services et que vous allez au restaurant, vous allez au spectacle, etc., c'est 95% d'activité locale.
Pour revenir sur ce que vous dites à l'instant, en fait, on a emprunté. Et du coup, avec cet argent qu'on a emprunté, on a acheté des produits qu'on importe.
En tout cas,
dans ce qu'on appelle les déficits jumeaux.
Voilà, déficits jumeaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie de notre déficit commercial qui est aussi conjoncturel, qui est lié justement à cette forte consommation. Parce que les gens ont passé du temps chez eux. Il y a eu de l'épargne qui a été accumulée. Et comme ils n'allaient plus au restaurant, ils ont plutôt acheté sur Amazon des produits industriels.
Mais même sur les produits, hein, d'ailleurs. Je veux dire, ce qu'on vend, c'est-à-dire des avions et des sacs Vuitton. C'est un peu ce qui a souffert quand même pendant la crise, parce que le luxe moins, mais le luxe maintenant avec la Chine notamment, parce que les groupes de luxe sont devenus assez dépendants des clients chinois, alors que ce qu'on achète, des télés, des ordinateurs pour le télétravail ou des meubles pour travailler à la maison, c'est pas ce qu'on fabrique en France. Donc ça va peut-être également se rééquilibrer un peu, c'est peut-être aussi un résultat.
C'est vrai qu'à l'export, on a trois points forts, hein, les avions, le luxe et puis les grands vins, hein, pour faire simple.
La pharmacie et la chimie, normalement aussi. Mm-hmm.
Et pourquoi on n'arrive pas à cette fameuse montée en gamme qu'ont si bien réussi les Allemands ?
On a des problèmes de compétences, hein, moi je pense, vraiment des problèmes de...
Si on devient nul en maths, c'est inquiétant pour l'avenir.
C'est ultra inquiétant, hein, tous les patrons d'ailleurs de groupes industriels lancent des appels désespérés, parce qu'effectivement on est devenu nul en maths, on n'a plus de profs de maths, et donc il y a quand même un problème même de formation continue, de formation professionnelle, d'aiguillage dans la formation initiale.
En France, à 25 ans, on a fait ses études, on estime qu'on a plus besoin de faire de mise à niveau par rapport aux nouvelles technologies, etc.
Clairement, on est moins bon et c'est pas simplement la faute des salariés, c'est aussi un peu la faute des entreprises, hein, qui ne poussent pas non plus particulièrement Donc on a un problème, je pense, de compétences et après on a un problème de perte de substance du tissu industriel, c'est-à-dire c'est pas simplement un grand groupe, c'est tous les sous-traitants, les groupes fournisseurs, les prestataires, etc. Si on commence à dévitaliser tel petit sous-traitant qui fait de la maille et puis tel petit sous-traitant qui fait de la teinture, etc., on n'a plus de filière textile. Voilà, on perd de l'écosystème et ça, reconstruire entièrement un écosystème, on s'aperçoit d'ailleurs que quand on veut reconstruire des filières dans certains domaines, on a déjà perdu de la substance. Dans le nucléaire, par exemple, qui était quand même notre grand, notre filière dans laquelle la France avait quand même été forte et pris de l'avance, on s'aperçoit que si on désinvestit pendant 20-30 ans dans cette filière, eh ben, on perd simplement même des soudeurs qui sont spécialisés.
Et à la fin,
dans
le plus gros employeur, c'est le supermarché et l'hôpital.
Voilà.
C'est le syndrome des villes oubliées, comme on dit.
C'est ça. Alors, il y a quand même un point, hein, qui est important là-dessus, c'est qu'on a beaucoup misé, peut-être à juste titre, en tout cas au départ, sur une compétitivité fiscale. C'est-à-dire que le bilan qui a été fait en 2012 suite au rapport Gallois, c'est qu'on a un problème de compétitivité, y compris
les entreprises partaient parce qu'elles étaient trop taxées.
Trop taxées, et donc c'est là qu'a été mis en place le CICE, après le pacte de responsabilité.
Sur les bas salaires.
Sur les bas salaires, CICE, pacte de responsabilité, baisse des impôts sur la production, baisse de l'impôt sur la société. Au total, ça fait presque 60 milliards par an. Le problème, c'est que c'est certainement, il fallait faire des efforts de ce côté-là pour redonner de la compétitivité aux entreprises, mais ce n'est pas suffisant. Et on voit que le coût budgétaire est élevé, mais les gains aujourd'hui sur l'industrie sont assez faibles parce qu'on n'a pas vu cette fameuse réindustrialisation. Parce que, premièrement, c'est très difficile de cibler les aides. Et en fait, quand vous baissez la fiscalité, 80%, ça va profiter aux services en général parce que les services, vous n'avez pas le droit de subventionner un secteur. Ah, oui. Ça, c'est assez compliqué. Et puis, toute la question, c'est qu'en fait, on n'a peut-être pas assez misé sur la formation, sur la recherche, sur l'innovation, sur tout ce développement, sur tout ce tissu productif qui fait qu'en fait, vous allez monter en gamme. Et donc, le choc fiscal n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'il fallait accompagner pour avoir une vraie compétitivité industrielle.
Alors, ce qui est inquiétant, c'est que non seulement donc, on manque peut-être parfois de compétences pour être dans le haut de gamme, mais même dans les services à faible valeur ajoutée, bien là aussi, on manque de bras. Écoutez, les restaurateurs de la France entière lancent un cri d'alarme. Beaucoup de restaurants, cet été, sur nos lieux de vacances, ne pourront pas ouvrir, faute de personnel. Regardez ce reportage dans le bassin d'Arcachon. On a un restaurateur qui, sur son ardoise, ne met pas le menu. Il met une offre d'emploi. Reportage de Elsa Arnould et Sylvie Tusquemounet.
Sur ce port typique du bassin d'Arcachon, ce restaurateur s'est résigné il y a quelques jours.
Obligé de fermer, j'ai pas de personnel. Ça fait maintenant un petit mois que j'essaye de recruter et je trouve personne. C'est un crève-cœur, oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, les clients sont là.
Pour pouvoir se remettre au fourneau, Alexis Dumay doit recruter 6 personnes.
Je regarde si j'ai des candidatures.
Réseaux sociaux, affiches. Avec sa mère, il tente par tous les moyens de constituer une équipe pour son restaurant. Une institution que Geneviève a créée en 1974. Faute de personnel, elle a même été mise à contribution à 79 ans.
Oh, m'en parlez pas. Bon, les crêpes, ça c'est ma spécialité, ça va, je peux les faire. Je fais la vaisselle, je fais la plonge, et puis, ça me... Et derrière le comptoir, à préparer les boissons.
En France, entre 200 000 et 300 000 offres d'emploi ne sont pas pourvues dans la restauration.
Cette année, écoute, à part un serveur qui me manque, au niveau des cuisines, c'est bon.
Un confrère plus chanceux qui a investi pour attirer les saisonniers.
Cet hiver, j'ai acheté un mobil-home dans un camping. Et puis je loge comme ça au moins 2 personnes.
Impossible pour Alexis de loger ses futurs recrues. À l'aube de la saison estivale, il est prêt à accepter tous les profils, même les moins expérimentés.
Alors, Étienne Lefebvre, on pourrait ajouter encore Ouest France qui nous dit ce matin, qui nous disait des restaurants fermés en début de saison faute de personnel, on n'a jamais vu ça.
Oui, mais le reportage est intéressant parce qu'on voit qu'il y a une mise en concurrence des employeurs eux-mêmes et qu'il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres. Alors, c'est évidemment le problème on parlait de l'inflation brutale, mais on a des mouvements entre secteurs qui sont extrêmement brutaux. Donc, c'est un secteur qui a perdu beaucoup de salariés pendant le Covid et qui ne peut pas retrouver du jour au lendemain 100 000 ou 200 000 salariés qui sont partis voir ailleurs, en particulier pour des problèmes de saisonniers. Alors, il y a eu quand même un accord dans la branche hôtellerie-restauration pour augmenter massivement la grille des salaires qui était beaucoup trop basse avec des échelons qui étaient en dessous du SMIC. Donc ça, c'était cet hiver. Mais ça ne suffit pas du jour au lendemain. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu aussi moins de déplacements de travailleurs saisonniers européens entre États, parce que beaucoup sont rentrés chez eux pendant le Covid. Donc il y en a moins qui sont disponibles et ce sont des secteurs qui fonctionnaient aussi grâce à ça sur les périodes de pointe. Donc, ça fait des dégâts, ça fait une perte de chiffre d'affaires, ça fait une perte de PIB pour le pays au final, si on n'arrive pas à résorber ces problèmes de formation.
Mathieu Planer, c'est toujours la même question, on dit, mais c'est incroyable, on cherche 300 000 serveurs qu'on ne trouve pas, et on a 3,5 millions de chômeurs qui, eux, cherchent du travail. Pourquoi est-ce que l'un n'arrive pas à compenser l'autre ?
Il y a effectivement deux leviers. Hein. Forcément, il y a la question de la formation, mais là, on voit que c'est des emplois saisonniers. En réalité, c'est pas beaucoup de la formation. Hein. C'est souvent des jeunes, c'est des boulots d'été. Je suis pas sûr que la formation sera la vraie réponse. Il y a la question de l'attractivité aussi. Hein. Voilà. Et donc, il y a la question des salaires. Pourtant, le salaire va l'air correct, mais c'est vrai que quand vous êtes, on parlait du bassin d'Arcachon, qui est quand même un endroit assez prisé. Si vous devez vous loger tout l'été pour aller travailler, il n'est pas sûr qu'il vous reste grand-chose à la fin, quoi. Donc, vous voyez, il y a ce problème-là. Et puis, par contre, il y a peut-être des excédents de main-d'œuvre dans des zones qui sont touchées, par exemple l'Île-de-France, qui est encore victime du tourisme. Pas sûr que ceux qui travaillaient en Île-de-France aillent à Arcachon sur un mois ou deux mois. Donc, il y a la réallocation de toute cette main-d'œuvre suite au choc, parce qu'on a un choc Covid très particulier qui est sectoriel, mais qui est aussi géographique. Et donc, vous n'avez pas la mobilité parfaite, sachant que c'est des contrats courts, hein, quand même, on n'est pas sur des CDI. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile pour ces gens de trouver du personnel. Et un point particulier, c'est quand vous regardez le niveau d'emploi aujourd'hui dans la restauration, il est supérieur à celui d'avant crise. C'est-à-dire que malgré tout, aujourd'hui, il y a des difficultés de recrutement, mais l'emploi n'a jamais été aussi élevé, en fait, dans la restauration. Malgré le fait que
vous avez pas forcément difficultés déjà avant la crise.
Oui, malgré les difficultés, malgré le fait que quand vous regardez la valeur ajoutée hein, que l'INSEE donne au premier trimestre, y compris dans la restauration, elle n'est pas revenue même à son niveau d'avant crise. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des pertes de productivité, alors qui sont peut-être liées aussi à des questions sanitaires, hein, c'est-à-dire d'organisation, parce qu'il y a encore certains gestes barrières, il y avait encore le pass sanitaire il n'y avait pas longtemps. Et enfin, tout ça a désorganisé beaucoup les choses. Et c'est vrai qu'en plus, dans une période de forte inflation, la question de l'attractivité des salaires, des conditions de travail devient primordiale. C'est vrai dans la restauration, c'est vrai dans le BTP et dans d'autres secteurs.
En tout cas, cette question du logement, je pense qu'elle est complètement cruciale. Dans tous ces secteurs touristiques, ce sont évidemment des secteurs où la pression immobilière est très forte. Hein. Les côtes, la Côte d'Azur, le bassin d'Arcachon, la Bretagne, voilà. Et donc,
c'est pour ça qu'en face de l'Élysée, comme le disait Emmanuel Macron, on manque de serveurs parce que se loger en face de l'Élysée,
voilà, pas facile.
C'est pas facile.
Et donc, on s'aperçoit que beaucoup de d'hôteliers et de restaurateurs ont des politiques de logement, c'est-à-dire achètent ou louent ou construisent des logements pour leurs employés. Et en fait, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen, de loin, au-delà de primes ou de etc., d'attirer des employés.
Alors, pourquoi le logement est si cher? Il y a bien sûr le manque de foncier. Il y a aussi les normes qui se sont multipliées et qui continuent de se durcir pour des raisons évidemment nécessaires, comme la transition écologique. Ainsi, les passoires thermiques vont bientôt être interdites à la location, ce qui va renchérir le coût pour les propriétaires. Voyez ce sujet de Juliette Poissonnier.
Sur Internet, ces annonces se multiplient. Des biens immobiliers mal isolés, classés F ou G, on les appelle des passoires thermiques. De plus en plus nombreux sur le marché, plus 7,7% au niveau national. Dans plusieurs départements, leur mise en vente explose depuis un an, jusqu'à 34,4% à Paris. La raison principale, depuis cet automne, un nouveau mode de calcul du diagnostic énergétique. Exemple, dans cet appartement en banlieue parisienne, à première vue, en très bon état.
Donc là, on est sur du double vitrage à toutes les fenêtres, donc on peut penser que l'isolation thermique, elle est plutôt bonne.
Mais mauvaise surprise, lors de la mise en vente, il obtient le plus mauvais score. L'immeuble est chauffé au fioul, un critère qui ne passe plus.
Lors de l'achat de cet appartement, il était classé en E. Aujourd'hui, on le remet en vente et ce même appartement est classé en G.
En 6 mois, le nombre de biens classés G aurait ainsi plus que doublé. En théorie, cette notation plus sévère doit inciter les propriétaires à rénover. Mais face à la facture, beaucoup préfèrent revendre, comme l'ancien propriétaire de cette maison alsacienne. Ici, tout était à refaire.
Les murs, c'est pas isolé du tout, hein. C'est encore l'ancienne, hein, vous voyez. C'est extérieur, c'est pas isolé, c'est accolé à la maison à côté.
Pour lui, les aides financières proposées notamment par l'État n'étaient pas suffisantes. À contre-cœur, il a dû se séparer de ce bien familial.
Vu les travaux, on n'aurait pas pu financer, c'est impossible. On a préféré vendre.
C'était trop cher.
Ouais, ça revenait pas beaucoup trop cher. Ouais, ouais.
En 2023, les passoires thermiques classées G seront interdites à la location.
Bon, Gaël Mac, vous nous prévenez encore à la une de Challenge. Hein. Logement, nous allons devoir changer de vie.
Bah oui, il va falloir changer de vie. Et c'est vrai que.
Ça coûte cher, hein.
Ça coûte très cher. Alors moi, personnellement, je fais pour chez moi. Donc, si je dois prendre un expert, par exemple, pour améliorer mon bilan énergétique, ça me coûte 2000 euros parce que je ne fais pas partie des revenus faibles pour qui c'est gratuit. Et nous avons demandé notre copropriété sans aucune subvention. Nous avons demandé si on pouvait faire une isolation par l'extérieur puisqu'on a un immeuble ancien, on ne peut pas le faire autrement. La mairie a refusé.
Ah bah voilà.
Donc du coup, je veux dire, il va y avoir beaucoup de problèmes et je veux dire, on n'est pas sur parce qu'on a une emprise sur le trottoir, donc il va faire 10-15 cm, et ben non. Donc il va y avoir beaucoup de problèmes, même pour les gens qui veulent faire cette démarche, il va y avoir d'autres, ça va rentrer en conflit avec d'autres normes et d'autres problèmes, etc. Et ils vont pouvoir avoir des refus. Et de toute façon, pour beaucoup de monde, la facture va être chère, même avec les aides de l'État, qui concernent certains ménages modestes, mais pas tous les ménages. Et il va y avoir une désorganisation du marché de l'immobilier, parce qu'au bout d'un moment, ces bâtiments qui sont G ou F ou G ou au-delà de G, et qu'on ne peut plus louer, les gens vont vouloir les vendre et personne ne va vouloir les racheter puisque les gens vont se dire, bah, en fait, on ne peut pas les louer, ou etc. Ou en tout cas, ils vont les racheter moins cher. Donc, il va y avoir quand même des effets de désorganisation et une pression à la baisse sur le marché de l'immobilier. Et c'est vrai qu'en plus, si on considère que le rêve du français moyen, nous dit Jérôme Fourquet, le sondeur, c'est le pavillon avec un jardin.
Ça n'est pas très écolo.
Voilà,
hein.
C'est le plus terrible.
Le plus dur est devant nous, c'est ce que dit notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info. On se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair, qui est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Bonne journée, bon week-end et à lundi.